en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Un livre d'exception pour un homme d'exception, c'est ainsi que l'on pourrait présenter l'ouvrage Pierre Messmer, Une conscience française, publié par les éditions Nicolas Chaudin en mars 2009. Un livre préfacé par le chancelier Gabriel de Breuil et un ouvrage qui recueille le témoignage de plusieurs personnalités et de nombreux académiciens, parmi lesquels le professeur François Jacob, chancelier de l'Ordre de la Libération, Maurice Druon, Robert Dautray, Pierre Mazot, Alain Planté, Jean Ménard, Jean Foyer, ainsi qu'Édouard Balladur, Michel Thoriac, Philippe Alexandre, Yves Guéna, Antoine Bernheim, Alain Mérieux et d'autres encore. Ce livre d'exception, Pierre Messmer, Une conscience française, méritait un lancement exceptionnel à l'Institut de France. Il fut présenté à la presse et devant toutes ses personnalités par le chancelier Gabriel de Breuil, par Hélène Carrère-Dancos, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, et par l'éditeur Nicolas Chaudin. Canal Académie les a enregistrés pour vous et vous propose de les écouter tour à tour.
Madame le secrétaire perpétuel, monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur le premier président, monsieur le chancelier, mes chers confrères, mesdames, messieurs, vous devinez que c'est avec une grande satisfaction et beaucoup d'émotion que je souhaite la venue à ceux qui se rassemblent pour le lancement du livre souvenir sur Pierre Messmer qui vient de paraître. Et en y réfléchissant, je m'aperçois que nous sommes en réalité réunis pour deux cérémonies distinctes qui me paraissent s'emboîter l'une dans l'autre. L'éditeur, M. Nicolas Chaudin, a souhaité tenir une réunion de lancement de ce beau livre. C'était bien naturel. Et pour tenir cette réunion, il n'avait que l'embarras du choix des lieux et pouvait désigner tel palais national de son choix. À tous, il a préféré l'Institut de France. En effet, Pierre Messmer a aimé ces lieux. Il y a passé les 18 dernières années de sa vie. Ces lieux sont habités par lui. Et je dois dire que si Nicolas Chaudin en avait choisi d'autres pour présenter ce livre, nous en aurions été déçus et peut-être attristés. C'est que nous tenons ici une autre réunion, différente de la première. Pierre Messmer est décédé le 28 août 2007. Il n'a pas voulu que des hommages officiels lui soient rendus lors de ses funérailles. Je peux révéler que j'avais été le témoin de cette volonté. En mars 2007, en votre présence, Monsieur le Premier Président, lors des funérailles de Pierre Moineau, dont le cercueil quittait la cour des Invalides. Pierre Messmer et moi suivions le cortège, derrière la famille, côte à côte. Et il me dit, sans se tourner, mais d'une voix suffisamment haute pour être entendue de ceux qui nous suivaient, « Pour moi, vous pourrez être tranquille, il n'y aura pas de discours. » Ces paroles ont résonné d'une autre manière un an plus tard. Les hommages académiques à Pierre Messmer ne sont pas encore rendus, ni à l'Académie française, ni a fortiori à l'Académie des sciences morales et politiques, la vacance de son fauteuil n'étant pas encore déclarée. Le deuil académique n'est pas de même nature que le deuil familial, mais il est aussi profond. Et en réalité, nous tenons une réunion de famille en deuil. J'aimerais dire que, ayant envoyé ce livre à tous nos confrères de l'Institut et à certaines personnalités, j'en reçois de nombreuses lettres qui sont autant de témoignages, d'admiration, de fidélité, d'hommage, des plus hautes autorités de l'État, comme des confrères, comme des familiers de notre confrère disparu. Ce florilège mérite d'être connu. Il est la meilleure preuve que ce livre était nécessaire, qu'il était attendu et qu'il est parfaitement réussi, tous en témoignent. Et il faut en remercier et féliciter tous ceux qui ont concouru à sa réalisation et souhaiter que sa diffusion en librairie soit bien annoncée largement, qu'il soit bien mis en place et que cette belle publication remporte tout le succès possible.
Monsieur le chancelier de l'Ordre de la Libération, monsieur le Premier Président, monsieur le chancelier, monsieur le secrétaire perpétuel, chers confrères, mesdames et messieurs, d'abord je dois vous prier d'excuser le retard avec lequel je suis arrivée. J'avais averti, et je dois dire que c'était tout à fait lié à Pierre Messmer. La raison de ce retard était que j'accompagnais chez le président Sarkozy pour lui présenter quelqu'un qu'il connaît très bien, mais pas comme membre de l'Académie française. Madame Simone Veil, qui a succédé à Pierre Messmer, qui a été élu au fauteuil laissé vacant par lui. Donc, j'étais tout à fait avec Monsieur Messmer. La cérémonie avait été fixée à 4 heures et les occupations du président de la République l'ont décalée. C'est la raison de ce retard. Donc, ne m'en veuillez pas, mais en même temps, sachez que je n'ai pas quitté Monsieur Messmer depuis 5 heures de l'après-midi. Je suis, je dois dire, très émue de devoir vous présenter ce livre. Je suis très émue. Je n'ai aucun titre à le faire. Sauf ce que j'ai écrit, mais je n'ai aucun titre parce que la gloire d'avoir fait ce travail ne me revient pas. Elle revient, et je tiens à le dire, d'abord à mon confrère et prédécesseur Maurice Druon, secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie française, qui a été véritablement le penseur de ce livre, je pense. C'est lui qui en a élaboré l'architecture. Monsieur Peuchot le sait, ils ont travaillé ensemble. C'est lui qui aurait dû vous présenter cela. Il était empêché aujourd'hui. Et il a imaginé que je pouvais le faire à sa place. Et c'est vrai que je n'ai pas présidé du tout à cette entreprise, et en même temps, cette entreprise me tient infiniment à cœur. D'abord parce que j'ai eu le grand honneur de travailler très près avec Pierre Messmer durant, dès que j'ai été élu secrétaire perpétuel de l'Académie française, j'ai retrouvé celui qui était chancelier de l'Institut. Il m'a fait l'honneur, comme il nous a fait l'honneur à tous les secrétaires perpétuels, de nous associer complètement à la gestion de l'Institut. Alors, je l'avais déjà connu comme membre de l'Académie, mais ce travail commun nous a infiniment rapprochés et, je dois dire, a créé des liens d'amitié qui sont pour moi un souvenir extrêmement doux et qui m'est un honneur considérable. Ce livre est extrêmement intéressant car il rend compte, et je peux leur faire des compliments puisque je ne suis pour rien dans son architecture, il rend compte d'une personnalité extraordinairement complexe, multiforme, et qui est par tous les côtés, hors du commun. Car on peut dire que toute la vie de Pierre Messmer ne ressemble à aucune autre, et c'est celle d'un grand homme, quel que soit le moment où on le prend, et quelle que soit la voie qu'il emprunte. Et c'est un livre, vous l'avez tous eu dans les mains, je pense, avec lequel on peut rester un temps infini, parce que, justement, on a les moments de Pierre Messmer, on a ces moments qui sont très émouvants parce que ce sont des photographies qui n'appartiennent pas au domaine public. Je crois qu'elles sont pratiquement toutes. On les a retrouvées dans des cartons. Elles sont du domaine privé. C'est cela qui leur donne un prix tout à fait particulier. D'ailleurs, on le voit bien. On voit bien qu'il ne pose pas, que tout cela est absolument spontané et d'un Pierre Messmer qui n'est pas exactement celui que l'on retient. Parce que celui que l'on retient, c'est celui qui a occupé des fonctions officielles et qui, par conséquent, était obligé d'une certaine façon de se prêter à la curiosité des photographes, à la curiosité du public, tandis que là, il a toujours été saisi dans des moments ou privés ou des moments particuliers de son existence. Là où on se rend compte du caractère, et grâce justement à ces images, du caractère tout à fait exceptionnel de son existence, d'abord c'est qu'on le voit à tous les âges, et qu'à tous les âges, il a été à un moment déterminé, quelque part, dans une position qui lui a permis de peser soit sur le destin du pays, soit sur le destin d'une institution. Je ne sais pas à quel moment il a eu une vie à lui, il a eu une vie personnelle, mais à quel moment il a pu se consacrer à lui-même, sauf les 2 mois de vacances qu'il passait quand il le pouvait dans sa maison de Saint-Gildas-de-Ruys, à laquelle nous savons tous combien il était attaché. Mais on voit toujours qu'il était en train de faire quelque chose, et au fond, ce grand patriote était en train de faire quelque chose, soit pour le pays, pour la défense du pays, soit pour la gestion du pays, soit quand il était ici, pour quelque chose qu'il considérait comme essentiel, c'est-à-dire une institution. Et en grand homme d'État, il considérait que les institutions étaient capitales pour assurer la survie du pays et pour relier le passé du pays auquel il tenait infiniment. Il avait une très grande connaissance de l'histoire, au temps présent et pour éclairer le temps présent. Alors, je voudrais évoquer ces moments où on le voit tellement vivant. D'abord, il y a Bon, l'enfance, tout ça, c'est très touchant, mais ça, c'est du domaine de la vie privée, tel que personne de nous ne l'a connu, sauf les siens. Mais dès qu'apparaît alors l'aventure de la guerre, d'abord, les images le montrent, car ce sont des images, là aussi, qui sont très différentes de l'imagerie officielle de la grande aventure de la guerre. Son embarquement, je dirais quasiment un embarquement pirate qui précipite ce jeune homme dans la grande aventure de la défense de la patrie contre tout ce qui avait l'air d'être la voie normale à suivre. La guerre qu'il fait dans des conditions remarquables, on le retrouve justement dans les lieux les plus hauts de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, là où la France qui était occupée était présente d'une façon héroïque avec des personnages comme Pierre Messmer. Toutes ces images sont très émouvantes parce que justement, elles ne figurent dans aucun manuel, elles ne figurent pas dans des films. On le voit tantôt au repos, tantôt attentif, mais on imagine ce qu'a été l'aventure de ces hommes qui avaient au fond perdu leur patrie, puisque pendant un temps, ils étaient presque les hors-la-loi de l'histoire de France. Et ils incarnaient le destin de la France et la présence française partout dans le monde. Après cela, on le voit dans ses fonctions africaines, gouverneur en Afrique, partout là où il fallait restaurer le destin français et trouver la voie. Et on sait très bien combien ça a été compliqué, trouver une voie entre ce qui était l'ancienne voie coloniale. Il ne faut pas oublier qu'il avait été formé dans ce qui s'appelait l'école coloniale, colo. C'est-à-dire qu'il n'avait pas été, avant la guerre, il n'avait pas été formé pour être un administrateur de pays indépendants, d'une Afrique qui allait s'émanciper. Il avait été formé pour assurer la présence française en Afrique. Et il fallait des hommes comme ça, des hommes qui à la fois savaient ce qu'était la place de la France dans ces pays et qui étaient capables d'imaginer un autre avenir, un autre mode de relation. Je crois qu'on peut lui être très reconnaissant de cela aussi, parce que ça n'a pas été facile d'arriver à passer, je dirais, du passé colonial. On discute assez de notre passé colonial et on en fait un thème de culpabilité. Justement, grâce à des hommes comme Pierre Messmer, on comprend très bien que, au contraire, la grandeur de la France a été de savoir comment on arrivait à participer, à prendre par la main des peuples qu'on avait colonisés pour les conduire à l'indépendance, à leur apprendre à vivre par eux-mêmes. Et Pierre Messmer a été un de ces chefs qui ont aidé à l'émancipation et qui ont contribué à guider des peuples qui avaient vécu avec nous dans l'indépendance sans que ce soit une indépendance contre nous. Et d'ailleurs, on le voit très bien. Quels sont les pays qui sont le plus fidèles, je dirais, à notre passé culturel commun? Où est-ce que l'on est plus attaché à la culture française et à la langue française? Où est-ce que nous regardons et nous essayons de trouver, non pas les traces de notre ancienne domination, mais tout simplement les traces de ce qui nous a unis et de ce qui continue à nous unir, c'est-à-dire l'amour du français, l'amour de notre culture, l'amour d'un passé commun? C'est en Afrique. Et certainement, c'est à des hommes comme Pierre Messmer, à ceux qu'il a su faire là-bas après la guerre, après s'y être battu et avoir assuré la présence militaire de la France, il l'a assuré après la présence culturelle, la présence morale de son pays. Et les photos rendent compte de cela. Il y a des images absolument saisissantes. Et puis il y a eu l'homme de gouvernement, l'homme qui tout de même a contribué à doter la France de sa puissance nucléaire, qui nous a aidé à reconstruire l'armée, l'homme qui a été un chef de gouvernement magnifique. On voit l'évolution entre le magnifique jeune homme au visage de Romain et puis l'homme mûr, toujours avec cette magnifique tête de Romain, et puis l'homme qui vieillissant, celui qui nous a rejoint à l'Académie, mais qui a gardé toujours cette magnifique prestance, cette beauté extraordinaire. Pour ça, cet album est beaucoup plus émouvant que les photos officielles, parce que les photos officielles, elles s'arrangent pour avoir, je dirais, un personnage stéréotypé, il ne faut pas s'y tromper. Quand les gens sont dans leur fonction officielle, incontestablement, ils correspondent à un modèle. Tandis que là, Pierre Messmer est en liberté partout. Et en liberté partout, c'est un personnage rayonnant qui s'impose, et pas du tout un personnage ni sévère, ni, je dirais, ni nanti de fonction officielle. Il rayonne toujours de cette autorité qui incontestablement fait qu'il a été suivi partout, qu'il a été suivi par ses hommes. Dans les années où encore tout jeune homme, il se trouvait à El Alamein ou sur les divers champs de bataille, de l'homme qui a été suivi en Afrique et de l'homme qu'au gouvernement, ministre de la Défense, on a tellement respecté. Et puis on en arrive, je dirais qu'il y a là-dedans aussi des photos personnelles qui sont extraordinairement émouvantes. Ceux d'entre nous qui l'ont connu tellement attentif à celle qu'il a accompagnée jusqu'au bout de son existence, tellement attentif, tellement dévoué, tellement extraordinairement gentil, plus que gentil. Enfin, j'ai rarement connu quelqu'un d'aussi remarquablement proche et aussi dignement capable de soutenir l'autre. eh bien, ces photos, on les retrouve. Et ça aussi, c'est très émouvant. On voit ce qu'a été sa vie personnelle, sur laquelle il était tellement discret. C'est une des choses que ceux qui l'ont bien connu savent. Il n'aimait pas beaucoup s'épancher. Et le visage qu'il a auprès de Madame Mesmer, le visage qu'il a auprès des siens à diverses étapes de son existence, ce visage attendri, c'est aussi un autre aspect du personnage que l'on doit à ses photos. Et alors, je voudrais évidemment en venir à l'académicien Pierre Mesmer, puisque c'est d'ailleurs lui qui justifie, double académicien et chancelier de l'Institut de France, qui justifie que cette réunion se tienne ici. Je voudrais dire que pour tous ceux qui ont travaillé avec lui, et notamment vous, monsieur le secrétaire perpétuel, nous savons à quel point nous avons admiré la manière dont son autorité morale, justement tout ce personnage qui s'est construit tout au long de l'existence et qui fait qu'il était entouré à la fois de respect, d'affection par tous ceux qui l'ont croisé, tout cela explique que l'homme qui a gouverné, secrétaire perpétuel de sa première académie, puisque c'est à sa première académie, celui qui a été membre de sa seconde académie à nos côtés, celui qui a été chancelier, eh bien, était capable de, d'une certaine façon de révolutionner l'Institut de France, tout simplement parce que cette immense autorité, tout ce qui émanait de lui, c'est ça qui fait que sont venues vers lui les donations, sont venues vers l'Institut, mais elles sont venues vers lui, il faut le dire comme ça, sont venues vers lui les donateurs, car il considérait que, précisément, cette grande figure morale, mais en même temps cet homme d'une infinie gentillesse, car c'était à la fois, il s'adressait à l'homme d'État dont il savait qu'il allait gérer ce qu'il leur remettait avec une sagesse incomparable que l'on ne rencontre nulle part, et en même temps il avait une gentillesse qui faisait qu'il créait la famille des donateurs. Et je crois que c'est ça la grande révolution qu'il a apportée dans cette maison, et cela aussi, on le voit très bien, on le voit au Mali hein, sur une photo qui est très émouvante aux côtés d'un homme qui a beaucoup fait pour cette maison et qui a partagé avec cette maison à la fois ses biens et son malheur, Alain Mérieux, et qui a été très proche de Pierre Mesmer, bien je dirais que cette photo est un moment historique qui traduit véritablement ce qui l'unissait aux donateurs et ce qui fait que les donateurs venaient vers nous. On comprend très bien qu'il y a eu une sorte de création d'un ensemble, d'une communauté de tous ceux qui voulaient apporter, qui voulaient partager avec l'Institut de France pour pouvoir accomplir, non pas du tout pour échapper au fisc, hein, comme le croient sordidement les gens, mais pour accomplir quelque chose, pour accomplir des tâches, pour fonder pour aider la recherche médicale ou pour aider d'autres types de recherches. La personnalité de Pierre Mesmer a permis le passage, je dirais, d'une politique de fondation assez classique à cette entrée dans une communauté de donateurs et de ceux qui pouvaient faire fructifier les dons et qui pouvaient les faire fonctionner. C'est-à-dire cette grande famille de l'Institut de France qui dépasse ses membres et dont Pierre Mesmer a été d'une certaine façon le patriarche. Et sa disparition, heureusement, il avait porté son choix sur son successeur, ce qui a eu beaucoup d'importance, car ça a permis à son œuvre, je dirais, au style de chancellerie qu'il avait adopté de se poursuivre avec, chacun apporte sa personnalité, mais très heureusement dans la ligne qu'il avait choisie. Mais je terminerai en disant que pour comprendre Pierre Mesmer, pour le connaître mieux, certains d'entre vous le connaissent peut-être tellement bien qu'ils ne trouveront rien de plus que ce qu'ils ont vu dans ce livre, mais j'ai l'impression que chacun de nous y découvre un autre Pierre Mesmer ou avance avec Pierre Mesmer tout au long d'une vie. Alors je voudrais dire, pour terminer, ma gratitude à ceux qui ont permis cette œuvre. Monsieur, vous êtes l'éditeur, merci pour nous tous et merci de m'avoir écouté avec patience.
Vous comprendrez qu'il me sera difficile de m'exprimer après de tels éloges. Et par ailleurs, parler devant une telle audience m'intimide énormément. Donc vous voudrez bien me pardonner si mon émotion me fait bafouiller, chercher mes mots. Tous ceux qui ont approché Pierre Mesmer évoquent les mêmes qualités, des qualités très solides, très massives. Sa droiture, sa bravoure, la noblesse de son âme. Vous-même, monsieur le chancelier, vous évoquez sa voix de bronze et son profil d'empereur romain. Vous, monsieur Ménard, évoquez sa conscience immaculée. Je me rappellerai pour ma part ce que m'a dit Maurice Druon quand je l'ai rencontré pour la première fois à propos de ce livre. Quand nous l'interrogions, Romain Masneau et moi, sur ce que représentait Pierre Mesmer, Maurice Druon s'est tu, a réfléchi 2 minutes et a dit Mesmer. Mesmer. Mesmer est là. Et il s'est arrêté immédiatement. Mesmer est là. Donc nous en avons conclu qu'il était une évidence. En tous les cas, une chose est sûre, sa grandeur est évidente à tous ceux qui l'ont approché. Mais pour nous, qui n'avons qu'un souvenir assez confus de Pierre Mesmer, ministre, premier ministre, pour nous, et notamment pour Aurore de Neuville ou Romain Masneau, qui sont beaucoup plus jeunes que moi, chez qui le souvenir de la guerre et des quelques pages héroïques à laquelle elle a donné lieu s'estompe peu à peu, Pierre Mesmer est une évidence immanente, mais était une évidence en tous les cas un peu désincarnée, un nom dans l'histoire auquel il fallait donner une substance. Et faire ce livre, pour nous, a donné lieu à une espèce de jeu de piste. Et nous avons reconstitué, en allant chercher des témoignages et en découvrant des photos, pour la plupart inédites, nous avons réussi à reconstituer l'homme qu'était Pierre Mesmer. Nous avons, comme aujourd'hui les images numériques se décomposent en minuscules petits carrés, nous avons, petit carré par petit carré, donné une image claire, enfin en tout cas voulu donner une image claire, de ce qu'était ce personnage exceptionnel. Ce qui m'a touché, moi, c'est qu'il est l'incarnation parfaite de la chevalerie. C'est un chevalier moderne, un chevalier de l'ère nucléaire, ce qui est assez surprenant. Mais sa vie, qui reste à écrire, car je regrette infiniment qu'il n'y ait pas une très grande biographie de Pierre Mesmer, je le regrette d'autant plus que cette biographie serait une chanson de geste. Et cet album, dont je suis l'éditeur, n'est que le recueil des enluminures de cette chanson de geste. Et je souhaite véritablement que les Français puissent disposer d'un livre qui leur fournirait un exemple de conduite et probablement un espoir en leur propre identité. Et j'appelle donc solennellement un biographe à se mettre à la tâche sans plus tarder. Je vous remercie infiniment de votre attention. Et voilà.
Vous venez d'entendre successivement Gabriel de Breuil, chancelier de l'Institut de France, Hélène Carrère-Dancos, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, et l'éditeur Nicolas Chaudin qui a publié l'ouvrage Pierre Mesmer, une conscience française.